sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Marie Sorbier, Thomas Corlin et René Solis pour parler ensemble de la vie de Galilée, de Bertolt Brecht. Mise en scène, Claudia Stavisky, c'est en ce moment à la Scala de Paris avant de partir en tournée. Dans le frigo d'après Copie, mise en scène Clément Poiré au Théâtre de la Tempête. Striptease 419 d'après l'émission Striptease, mise en scène par Paul Lourdeau, c'est au Théâtre de Belleville. Il y aura également un coup de cœur dans cette émission, celui de Marie Sorbier pour Put Your Heart Under Your Feet and Walk, de Stephen Cohen. Et nous ouvrons cette dispute avec une pièce dont nous avions parlé le 17 juin dernier. Thomas Corlin était là, pas les deux autres ce soir. La vie de Galilée, de Bertolt Brecht. À l'époque, nous étions disputés autour de la mise en scène d'Éric Ruff à la Comédie Française, mise en scène qui sera reprise cette saison. C'est une nouvelle production de cette même pièce qui est en ce moment à l'affiche de la Scala avant de partir en tournée. Cette fois dans une mise en scène de Claudia Stavisky. Pour rappel, Bertolt Brecht a écrit cette pièce en exil au Danemark de 1938 à 1939. Puis il l'a révisée, traduite en anglais en 1945 lors de son séjour aux États-Unis. Et enfin, il l'a retravaillée jusqu'en 1954 dans la version dite berlinoise. Comme Éric Ruff, Claudia Stavisky a choisi d'utiliser la traduction d'Éloi Recoin de cette pièce, traduction publiée à l'Arche Éditeur. Il s'agit, comme son titre l'indique, d'une biographie théâtrale, celle de Galileo Galilei, qui défendit en son temps les thèses de Copernic et qui prouva à force d'observation que la Terre, figurez-vous, tourne autour du soleil. Je sais, vous étiez peut-être pas prêt à cette déclaration. Donc, c'est pas l'inverse. C'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre. Donc, on le considère depuis comme le fondateur de la physique. Il a eu beaucoup de protection au cours de sa vie. Il a souvent quand même dû changer de ville pour poursuivre ses recherches. Galilée, on le sait, finira par être condamné par l'Inquisition. Avant même d'écouter un extrait et avant de développer votre point de vue critique, une première impression sur ce spectacle, Marie Sorbier ?
Oui, je trouve que c'est une mise en scène sobre et élégante dans laquelle on entend très bien ce texte.
René Solis.
C'est un texte formidable et c'est un acteur formidable aussi, donc c'est bien.
Thomas Corlin.
Une mise en scène, je dirais, généreuse mais trop prudente d'un texte qui mériterait un peu plus de parti pris.
Écoutons.
Moi, je soutiens que le seul but de la science consiste à soulager les peines de l'existence humaine. Quand des hommes de science, intimidés par des hommes de pouvoir égoïstes, se contentent d'amasser le savoir pour le savoir, la science peut s'en trouver mutilée. Et vos nouvelles machines pourraient ne signifier que des tourments nouveaux. Vous découvrirez peut-être avec le temps tout ce qu'on peut découvrir. Et votre progrès, cependant, ne sera qu'une progression qui vous éloignera de l'humanité. L'abîme entre elle et vous pourrait un jour devenir si grand qu'à votre cri de joie devant quelque nouvelle conquête pourrait répondre un cri d'horreur universel.
Voilà pour cet extrait de La vie de Galilée en ce moment à la Scala de Paris. Moi, je n'ai pas encore vu ce spectacle, donc je vais être le premier auditeur très attentif de vos débats. Avant de développer votre critique, Thomas Corlin, donnez-moi des images. Qu'est-ce qu'on voit sur ce plateau de la Scala?
Alors même pour décrire un petit peu visuellement tout ça, je préviens que je risque de me référer de temps en temps à la pièce de la Comédie Française, puisque c'était il y a 4 mois. Donc c'est un peu le jeu des 7 différences pour moi, puisqu'on est quand même un petit peu dans le même registre. Hein. C'est un peu patrimonial, si je peux m'exprimer ainsi, comme traitement. Alors, on est sur une scénographie, en l'occurrence, globalement plus sombre, je dirais, que celle de la Comédie française. Des lumières un peu plus froides, un peu plus géométriques aussi, puisqu'on a beaucoup de faisceaux lumineux qui viennent percer l'espace en biais depuis des petites trappes sur le haut des parois latérales de la scène. Le décor aussi est encore plus littéral et il est animé par une projection vidéo dans le fond, derrière des portes coulissantes et des fenêtres, qui permettent donc à chaque fois de situer très simplement et très fidèlement dans quel lieu on se situe. Alors, évidemment, avec la Comédie française, il y avait les moyens de la Comédie française, donc ils se payaient des reproductions absolument fastueuses de peintures de la Renaissance sur d'énormes tentures qui donnaient un cachet de fou à l'ensemble. Ici, c'est plus modeste, mais bon, il y a quand même un certain nombre d'idées, mais c'est aussi assez attendu. On a quelques jolies choses, je dirais. Par exemple, on a une croix religieuse, en fait, une croix catholique qui tout simplement vient intervenir. Elle est perçante, lumineuse, écrasante à chaque fois que les autorités religieuses interviennent sur scène. Il y a aussi une jolie scène, je trouve, un moment qui est de jouer de dos entièrement, genre lorsque Galilée présente donc sa fameuse lunette aux bourgeois locaux sur le port de Florence. Mais mis à part tout ça, j'étais assez frustré donc de retrouver dans la plupart des scènes les mêmes dispositions de comédiens sur plateau, les mêmes compositions visuelles qu'à la Comédie française en juin, comme s'il y avait chez ces metteurs en scène finalement un peu des formules consacrées, un certain nombre de réflexes, je dirais, le même imaginaire. Et juste pour finir, j'ai également jeter un coup d'œil en ligne à la mise en scène de Vitesse, puisque tout le monde s'y réfère. C'était donc il y a 30 ans et qu'on retrouve tout en ligne, et j'ai retrouvé les mêmes lumières en diagonale sortant des trappes latérales en hauteur, et la même ambiance scénique et les mêmes projections similaires en fond, un petit peu, pas en vidéo, mais c'était juste simplement des projections de peinture. Je suis pas en train de dire que c'est du plagiat, mais peut-être juste une sorte de mimétisme visuel.
C'est une description un peu critique déjà. On a bien compris, mon cher Thomas. Vous avez usé votre joker. Marie Sorbier, pour commencer vraiment la partie critique, alors plutôt conquise, hein.
Oui, j'ai envie de défendre cette mise en scène.
Mais faites-le.
Et c'était une surprise parce que c'est pas que je m'y attendais pas, mais je m'attendais pas à grand chose. Donc du coup, j'ai été séduite par deux points principaux. D'abord, plastiquement. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Thomas. J'ai trouvé justement la scénographie et les lumières. Les lumières, je les ai trouvées somptueuses. Je trouve que ça dessine, ça enrobe. On sent les trahisons quand il y en a. On sent l'affection quand il y en a. Je les ai trouvées particulièrement réussies. Et cette scénographie, je l'ai trouvée sobre et élégante. C'est-à-dire qu'on pourrait en faire beaucoup sur cette pièce. Alors, je n'ai pas vu la pièce à la Comédie française, donc je ne peux pas m'y référer, mais j'ai trouvé que cette scène quasi vide la plupart du temps. Hein. On a cette table où Galilée travaille, mais sinon, le reste du temps, c'est vraiment signifié par les personnages en scène et un banc ou un fauteuil. Enfin, il y a très peu d'objets. Laisse une part très grande aux comédiens, et c'est eux qui portent ce texte, et ce qui fait qu'on l'entend particulièrement bien, c'est que le regard n'est pas happé par autre chose, par des fastes ou par des décors comme ça un peu mirobolants, mais vraiment par ce qu'ils incarnent, et je les trouve tout à fait incarnés.
René Solis, convaincu aussi.
Alors moi, je veux quand même revenir sur, c'est un grand texte, je disais, bon, c'est presque une évidence, mais c'est quand même un texte étrange, parce que c'est un ovni dans l'œuvre de Brecht. C'est un texte qui n'est pas du tout brechtien, d'une certaine façon, c'est du théâtre réaliste, linéaire, et qui demande au spectateur, d'une certaine façon, une forme de passivité, puisqu'on s'installe dans son fauteuil et on vous raconte l'histoire. Il y a qu'à l'écouter, on est vraiment dans une posture comme ça le récit qu'on fait ne suppose pas d'efforts particuliers, sinon d'attention, et l'attention est très grande. Et le texte, il est magnifique. Donc il y a tous les thèmes de le rapport entre la science et le pouvoir, il y a la vérité contre l'obscurantisme, il y a y compris des thèmes qui sont, alors pour le coup, un peu rajoutés par Brecht, l'extrait qu'on a entendu, qui est c'est 45, et c'est la bombe atomique, et donc cette interrogation sur est-ce que la science qui est censée être dans la bouche de Galilée l'instrument de libération ne sera pas finalement un instrument qui débouchera sur du pire, etc. Bon, tout ça, c'est sans fin. Tout est toujours passionnant dans la pièce. Donc, on écoute ça avec une attention formidable. Grand acteur, je disais, en tout cas, très solide acteur. Alors, j'ai pas vu, moi, le spectacle de Éric Ruff avec Hervé Pierre. Donc, j'ai pas cette référence. J'en ai une autre qui est un tout petit peu plus ancienne, pas beaucoup, qui est celle de Nicolas Bouchot, Jean-François Civadier. J'y reviendrai peut-être un peu. Toretton, on le suit, alors, du début à la fin. C'est une pièce qui repose de façon presque écrasante écrasante sur les épaules du comédien. Enfin, écrasante, en même temps, c'est le beau rôle. Donc, il est, la pièce tourne autour de lui. Galilée est le soleil de la pièce. Et, il est parfait. Je veux dire, il est impeccable. Il est complètement dans le rôle, dans quelque chose de très clair. De voilà. Donc, il y a pas de mystère, mais il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt qu'on prend à l'écouter. Je reviendrai peut-être après sur la mise en scène.
Alors, Thomas Corlin, peut-être sur Philippe Torreton, puisqu'on en parlait à l'instant.
Alors, par rapport à Torreton et par rapport à l'interprétation de la plupart des comédiens, j'ai été relativement indifférent, si ce n'est à Michel Hermon, qui semble vraiment, qui donne beaucoup de caractère, je trouve, qui est donc joue notamment le rôle de l'inquisiteur, qui donne beaucoup de caractère tout en maîtrisant ses effets et sans trop en faire. J'ai trouvé relativement agaçant l'équipe de soutien de Galilée, qui joue exactement de la même manière dans les deux cas, avec cette espèce d'air un peu contrit et volontaire. Ils sont un peu hystériques à chaque fois qu'il y a une injustice par rapport à leur maître, ou bien quand il y a une nouvelle découverte. Mais je vais rejoindre ce que disait René Solis par rapport au texte. Je me souviens, quand on l'avait évoqué ici, il y avait un certain nombre de réticences, parce qu'effectivement, il peut avoir un côté un peu démonstratif. Néanmoins, je trouve qu'il dit beaucoup de choses, là, mais aussi beaucoup en ce qui me concerne. Et il dit beaucoup de choses, et le fait qu'il ait été... qu'on est vraiment amené sur scène dans deux quand même très grosses scènes à 4 mois d'intervalle, dit que finalement il y a une matière qui est très contemporaine. C'est-à-dire que le nombre, effectivement, la René Solis était en train d'évoquer, enfin on va pas passer en revue tous les thèmes, c'est-à-dire il y en a énormément, ça peut se déplier dans tous les sens. Il y a aussi la notion de ce qui est vrai et de ce qu'on laisse permettre être vrai. Ça peut résonner dans tous les sens, et je trouve justement que des lectures un peu linéaires comme ce qui nous est proposé, donc là à la Scala et puis récemment à la Comédie Française, ne servent pas à rafraîchir la pertinence de ce texte, et puis surtout à lui donner tout le relief qu'il pourrait avoir. Je pense qu'on devrait faire un redécoupage, éventuellement dépouiller ce côté un petit peu scolaire dont on avait parlé en juin, et faire rebondir ce texte véritablement. Là, on nous le déplie exactement comme le disait René Solis, d'une manière extrêmement simple. Les enjeux sont assez plats, finalement, je veux dire. Pourtant, il y a plein de choses qui doivent résonner avec aujourd'hui dans ce texte.
Bon, on va laisser René Solis répondre au téléphone. Moi, je n'ai pas vu encore une fois cette nouvelle production, mais pour ce qui est du texte que j'ai quand même vu plusieurs fois jouer, mais je ne partage pas votre engouement. C'est que je le trouve en effet extrêmement démonstratif. En effet, il y a quand même une série de thèmes qui sont abordés. On est pour l'édification des masses populaires quand même. C'est quand même très très fléché. La plupart du temps, peut-être que c'est pas le cas dans cette mise en scène, mais malgré tout, il joue bien ce texte-là, qui n'est quand même pas d'une finesse absolue. Quand vous parlez de texte magnifique, René Solis, il est magnifique en quoi? Et quand vous dites que Torreton est parfait, je vois pas comment on peut être parfait dans un rôle, en fait. C'est une chose que je ne comprends pas bien.
Bon, alors, sur le texte magnifique, il est magnifique aussi dans la traduction d'Éloi Recoing, qui est un formidable traducteur. Et il y a une dimension, on entend, je trouve, particulièrement bien la dimension poétique de la langue de Brecht. Et c'est un texte qui, même s'il est effectivement linéaire, réaliste, démonstratif d'une certaine façon, est aussi un texte qui sonne très bien, et qui est en plus plein d'allusions à d'autres textes du théâtre allemand. Il y a le début de Galilée, c'est le début du Faust de Goethe. Il y a comme ça des échos, et il y a des échos dans la langue y compris. Et donc il y a quelque chose d'une beauté de la langue à laquelle moi je suis très sensible. Et je suis très sensible à Brecht poète, et je trouve que La vie de Galilée est un texte très poétique. Et je trouve que, alors, pour quand même introduire une réserve, et pour rebondir sur cette histoire de poésie, je repensais effectivement donc à cette mise en scène de Jean-François Sivadi avec Nicolas Bouchaud, et il y avait dans l'interprétation de Bouchaud et dans la mise en scène de Sivadi justement une dimension poétique, étrange, bouffonne, comique. Ils allaient, disons, beaucoup plus loin dans la...
Il y avait un parti pris, en tout cas.
Il y avait des parties pris, donc il y avait une façon de pousser la pièce.
Une lecture.
De pas se laisser dans le ronron, effectivement. De ce point de vue-là, c'était plus intéressant. Et je peux dire un mot sur la mise en scène?
Marie Sorbier voulait répondre quand même sur cette question.
Oui, juste sur Torreton, qui, moi, n'est pas mon acteur fétiche ni préféré. Je l'ai même pas du tout aimé dans certaines pièces récentes qu'il ait faites. Donc, j'étais pas du tout conquise d'avance. Alors que Nicolas Bouchaud m'avait enflammée avant même qu'il ait commencé à ouvrir la bouche, dans la mise en scène de Sivadi dont vous parliez. Je l'ai trouvé justement très juste. Je trouve qu'il porte ce texte avec beaucoup de finesse. Il est le personnage parce qu'il a cette ambivalence entre ce côté très terrien. Galilée, c'est quand même un gars qui aime les plaisirs de la vie. Mm-hmm. Il parle beaucoup de ce vin sicilien. Oui, il va abdiquer pour justement rentrer chez lui et vivre encore un peu. Il y a tout ce côté-là que je trouve que Toretton incarne très justement et qui fait ressortir cet aspect de la pièce que je trouve intéressant. Mmh. Et sur le texte, moi je vous rejoins totalement, ça m'a prise du début à la fin. En fait, je me suis surprise à le réécouter, à le réentendre jusqu'au bout sans m'ennuyer particulièrement. Après, c'est vrai, et là je vous rejoins Thomas, il n'y a pas de lecture particulière de la pièce. Il n'y a pas un parti pris fort comme pourrait l'avoir Sivadier, mais je l'ai lu, enfin je l'ai interprété comme une position d'humilité de la metteuse en scène en disant je laisse la part belle au texte et à cet acteur qui l'apporte.
Oui, pourquoi pas. Thomas Corlin.
Mais alors c'est assez amusant parce que Eric Ruff aussi avait exactement la même lecture du personnage de Galilée, c'est-à-dire c'est un jouisseur.
Bah, Hervé Pierre le fait très bien.
Il y a un petit détail justement sur Philippe Toretton, je pense pas que ce soit dû à son jeu parce que j'ai pas vraiment de commentaire à faire là-dessus, c'est plus par rapport à des tout petits choix de mise en scène qui je pense viennent donc de Claudia Stavisky, ce sont les regards publics de Toretton qui je trouve font partie des gestes qui surlignent un petit peu le sens du texte qui, donc, comme on l'a dit, est quand même déjà bien clair. Il y a notamment cette scène qui est peut-être une des plus didactiques où justement, c'est un religieux qui est également physicien et qui a un petit peu des doutes à la fois sur sa foi et aussi sur la vertu de la science. Et bien évidemment, il ne peut s'empêcher de se ruer sur les nouvelles découvertes de Galilée, donc il se met directement dans le livre. Et à ce moment-là, Philippe Toretton fait un regard très très entendu au public, exprimant qu'il est très content de l'avoir acquis à sa cause, mais également nous mettant dans une sorte de connivence, comme quoi finalement le public serait déjà d'aujourd'hui du côté des Lumières et de la science et de la connaissance. Je trouve que ça rajoute un manichéisme dont pourtant à la fois Stavisky et Ruff se défendent, et dont le texte n'a vraiment pas besoin, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a d'autres choses à tirer de ce texte.
René Solis.
Oui, alors moi je voudrais rebondir sur l'expression mise en scène patrimoniale. Je suis assez d'accord en fait, et mais finalement c'est peut-être pas mal d'en avoir aussi des mises en scène patrimoniales, surtout quand elles sont quand on entend, on décroche pas une seconde. Donc il y a l'autre référence, je parlais du Faust, mais il y a aussi la mort de Danton de Büchner, c'est l'autre grande référence de la pièce. Donc il y a quand même il se place d'égal à égal avec ça, Brecht, quand il écrit La vie de Galilée. Il y a beaucoup d'ambition là-dedans, du point de vue littéraire. Et sur la mise en scène, oui, alors, comment dire, je dirais qu'elle est modeste et qu'elle a raison de l'être.
Parce que c'est regard public dont parle Thomas.
Et donc,
ils sont pas trop.
Ces regards-là, effectivement. Et les fioritures, par exemple, des choses que j'ai pas du tout comprises. Je ne comprends pas pourquoi le précepteur de Combes de Médicis est habillé en officier de la Wehrmacht et parle avec l'accent allemand.
C'est douteux.
C'est vrai que c'est très étrange.
Je comprends pas du tout. Je comprends pas pourquoi les agents de l'Inquisition.
C'est très, très bizarre.
Oui, tout d'un coup, les agents de l'Inquisition sont en imperméable mastic et chapeau mou comme des agents comme la Gestapo ou de KGB.
On peut pas dire que ça parle beaucoup.
Le vieux cardinal aussi. Le vieux cardinal.
Mais c'est quand même
monsieur arachnéen. Mais
alors, vous pointez de très gros problèmes là quand même. Après l'avoir,
il y a des grands
bien de ce spectacle.
Mais c'est assez mineur.
Non, mais c'est pas possible.
C'est des apparitions très rapides.
C'est relativement mineur et on peut pas dire effectivement que ça parle beaucoup ni à l'imaginaire ni à la réflexion. Il y a quand même, il faut le dire aussi, quelques très bonnes scènes. La scène de l'habillage du pape en particulier est très bonne. C'est une des scènes où n'est pas Galilée, où n'est pas Toretton. Et là, tout d'un coup, on est dans quelque chose. Alors, de très patrimonial. C'est l'habillage du pape comme dans elle de Genet, hein, de pied en cap, il se prépare. Et cette scène-là, elle est plutôt très réussie dans une modestie. Il vaut mieux qu'elle le soit. Voilà.
Thomas,
Claudia Stavisky avait-elle vu la mise en scène de Eric Ruff avant? Enfin, il y a quand même vraiment, par exemple, cette scène qui vient d'être pointée, qui est magnifique, effectivement, est exactement la même. Mmh. Sauf que le cardinal ne tourne pas dans la mise en scène de Claudia Stavisky. Puis j'ai quand même aussi des petites questions sur la mise en scène de vitesse, quand même. Parce qu'il y a vraiment, quand on voit les images sur Internet, c'est un petit peu frappant quand même.
J'ai pas vu donc cette mise en scène.
C'est un léger doute que je laisse.
Moi, je l'ai vu et je ne l'ai pas en tête.
Bon,
heureusement qu'il y a Internet.
Vous allez faire vos devoirs avant de venir, René, je ne comprends pas, relire vos notes. De quelle année déjà?
Je ne crois pas que j'avais écrit.
C'était à 30 ans.
Oui, mais il sévissait déjà. René Solis, c'était un petit jeune qui montait comme vous, Thomas, aujourd'hui. La vie de Galilée, de Bertolt Brecht. C'est une mise en scène de Claudia Stavisky. C'est jusqu'au 9 octobre à la Scala à Paris. La tournée va suivre, 17-18 octobre, logiquement aux Libertés, salle nationale de Toulon. Puis 5-7 novembre à la Criée à Marseille, 11-12 novembre à l'Équinoxe à Châteauroux, du 15 novembre au 1er décembre, logiquement aussi au Célestin à Lyon, logiquement parce que c'est Claudia Stavisky qui dirige ce théâtre. Ensuite 17-18 décembre à l'Antea à Antibes, 8 au 10 janvier à la Comédie de Saint-Étienne, le 17 janvier à la Maison de la Culture de Nevers, et la tournée s'achèvera du 23 au 25 janvier au Quai Centre Dramatique National Angers, Pays de Loire. Rappelons que cette mise en scène de Claudia Stavisky se base sur la traduction d'Éloi Recoin, publiée à l'Arche Éditeur. Très belle traduction, je vous rejoins là-dessus. Tout à fait, René Solis. On va parler ensuite dans cette émission de Dans le frigo, d'après Copy, Striptease 419, d'après l'émission Striptease, et puis il y aura un coup de cœur de Marie Sorbier pour Stephen Cohen.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Dans le frigo, d'après Copy, mise en scène Clément Poiré, c'est jusqu'au 20 octobre au Théâtre de la Tempête. De quoi ça parle? Je laisse Copy lui-même répondre. C'est une archive INA qui date de la création en octobre 1983.
Le sujet, s'il y en a un, c'est l'histoire d'une journée d'une personne extrêmement solitaire qui reçoit comme cadeau d'anniversaire, le jour de ses 50 ans, un frigidaire de la part de sa mère. C'est le début du spectacle. À travers ce frigidaire, il va représenter un chien, une gitane, sa propre bonne. Enfin, c'est une intrigue qui se fait autour de ce frigidaire qui est là seulement par un caprice de sa mère, par un truc comme ça. C'est le frigidaire. Et le frigidaire, il est, on attend toujours qu'il soit ouvert, parce que pour un truc, la piscine doit être ouverte. En fait, il n'est, je ne vous dirai pas s'il est ouvert ou non, mais il est ouvert très tard.
Voilà, c'est Copy qui racontait lui-même. Avant de parler de ce spectacle, et de d'après Copy, hein, je l'ai bien dit, c'est Dans le frigo et c'est plus Le frigo. Un premier sentiment, son résumé, en tout cas, René Solis.
Disons que c'est un peu surprenant, c'est un spectacle qui ménage des surprises. Il y a un peu tromperie sur la marchandise, hein, quand même.
Thomas Corlin. Justement, une pochette surprise théâtrale, je dirais, classique hein, dans son exécution, mais qui propose de redéfinir l'expérience de la soirée au théâtre, comme on dit.
Marie Sorbier.
Exactement le même mot. Pochette surprise de l'aventure théâtrale, c'était vraiment ça.
Bon, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'on voit au Théâtre de la Tempête?
Il va me falloir me laisser un peu de temps. Parce
combien
que,
hein, j'ai une course à faire, vous voulez que je m'en aille?
Est-ce qu'on peut dévoiler ou pas?
Alors, c'est ça, une grosse question. Il va falloir que je dévoile un peu, parce que sinon nous ne pourrons pas parler. Mais il faut quand même dire que...
René Solis n'est pas d'accord, vous voulez voter? Non.
C'est-à-dire, comme c'est une pochette surprise, si je décris ce qui va se passer, je vais dévoiler quelques pans de la surprise.
Et d'autres gens l'ont vu aussi.
Je vais essayer de faire le plus... soft possible.
On est presque obligé de donner les titres, par exemple.
Alors voilà, parce que pourquoi René Solis dit ça? C'est qu'en fait...
C'est vrai que les gens ne comprennent rien.
C'est pour ça que je vais essayer d'expliquer.
Ceux qui nous écoutent n'ont rien compris.
Incompréhensible.
Nous parlons de Dans le frigo. On repart de là.
Ce spectacle se décompose en trois temps. Mais ça, nous ne le savons pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on arrive à la tempête, on nous dit que nous allons voir Dans le frigo d'après Copy, que ça dure 4h15, point barre. Et on rentre
déjà,
dans cette
salle. On prend ce truc sur la tête.
Bon, déjà Copy, 4h15, il y avait quand même quelque chose de...
Copy, c'est quelqu'un qui a écrit des pièces relativement courtes.
Exactement. Donc, on imaginait d'après Copy, on s'est dit, bon, ça va être un assemblage de textes.
Écriture de plateau.
Mais pas du tout. Et c'est là où la surprise peut être un peu complète. Donc, la première partie, on arrive dans cette salle de la tempête. Et c'est en effet une pièce de Copy qui va se dérouler. Alors, la scénographie, c'est une chambre bourgeoise avec des dressings, enfin des penderies comme ça partout, des grandes penderies avec des toilettes incroyables, on voit des paillettes, des froufrous, et habite ce lieu une femme, un homme, on ne sait pas, d'une cinquantaine d'années, donc on apprend que c'est son anniversaire, il va avoir 50 ans, et trône au milieu de cette chambre bourgeoise, quand même on sent la décrépitude un peu partout, mais un réfrigérateur absolument énorme qui prend comme ça tout le centre de la pièce. On apprend très vite, donc c'est la maman du personnage principal dénommé Elle qui a offert ce frigo fermé pour les 50 ans de son fils. C'est un seul en scène, c'est pas vraiment un seul en scène, mais c'est un seul en scène, puisque l'acteur va y jouer tous les personnages, la mère, les domestiques, et c'est peuplé comme ça d'êtres un peu étonnants. C'est une ambiance assez étrange, comme toujours chez Copy, mais on est entre le burlesque et l'étrange. dans cet univers un peu particulier. Bien, la pièce se termine au bout d'une cinquantaine de minutes, je pense,
moins
peut-être.
Que ça,
moins que ça,
35
peut-être.
Minutes, oui.
C'est assez court. Ouais. Et là, on nous invite, enfin, le frigo s'ouvre, et des êtres un peu étranges sortent de ce réfrigérateur, et on nous invite à nous lever, à traverser le plateau, et aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, on atterrit dans la deuxième salle de la tempête, avec un univers alors radicalement différent, ça n'a rien à voir, nous sommes au globe, hein. Grosso modo, petit globe, disons.
J'ai vendu théâtre shakespearien.
Théâtre shakespearien, les gradins, la scène comme ça en contrebas, un peu type arène. Et là, donc, la deuxième pièce commence. Alors, je suis obligée quand même de la nommer.
Oui,
je la nomme,
là,
je,
pas,
je la nomme. Et nous assistons à une représentation de Macbeth. Voilà. Alors là, tout le monde est un peu surpris. À la bougie, presque à la bougie, on est dans une atmosphère très sombre. Donc, pas de décor, hein, on est vraiment autour de cette arène. Et Macbeth commence.
C'est vrai que ça donne envie, hein, si on s'arrête là, hein.
Est-ce qu'on doit en dire plus? Mais je suis obligée, parce qu'il y a la troisième partie, parce que ça ne s'arrête pas. Et donc, Macbeth finit au bout d'une heure et demie, ou je ne sais pas combien de temps.
Beaucoup plus que ça.
Deux heures, peut-être.
Deux heures et demie, allez.
On revient dans la salle principale, dans la première salle, avec une scénographie qui a varié un peu. On est toujours dans une chambre comme ça, bourgeoise, avec toujours ses penderies et ses toilettes. Et nous sommes dans la chambre de Madame. Où là, les bonnes sont là, et donc on assiste à une représentation de la pièce de Genet, Les Bonnes. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là de cette description.
Maintenant, vous avez, c'est une description longue. René Solis, sur cette proposition.
Alors, d'abord dire que la description, cette fois, je pense que les auditeurs ne sont plus perdus, qu'ils voient de quoi il est question. Dire que la mise en scène de la pièce de Copy, elle est pas mal du tout, parce qu'effectivement, il y a cet équilibre ou ce déséquilibre entre le permanent, le burlesque, le fantastique. C'est drôle, et puis ces dressings, de cette scénographie, il fait vraiment quelque chose, parce que ça sort des placards, les portes s'ouvrent, se ferment. Donc on est dans la mécanique comique de Copy, qui doit beaucoup au vaudeville. Hein, c'est quand même un de ses grands modèles. Si les pièces de Copy tiennent si bien le choc, c'est entre autres parce que derrière leur côté foutraque et qu'on pourrait penser un peu daté de son époque, des années 70, il y a une mécanique théâtrale incroyablement efficace, réfléchie. C'est très écrit de ce point de vue-là. Donc voilà. Et ça, on le sent bien. Donc ces 40 minutes du frigo sont plutôt de bonne facture. C'est bien. Le problème qui se passe après. Donc, passer la surprise, passer le passage du plateau, cette traversée du plateau, c'est théâtralement toujours assez beau, cette idée qu'on passe un seuil comme ça, on enfreint quelque chose, enfin bon, tout ça. Et on se retrouve donc dans la forêt avec les sorcières de Macbeth. C'est pas que ce soit mal fait, c'est-à-dire que c'est du théâtre de bon niveau là aussi, c'est pas mal joué, tous les acteurs sont pas toujours au même niveau, mais comment dire, c'est en même temps c'est un Macbeth de plus, il y a pas de vraie lecture, de vrai, il y a rien d'éclairage, de choses très particulières, donc ça se déroule j'ai commencé à me poser la question, mais c'est quoi le rapport, pourquoi dans ce frigo de Copy, une fois qu'on a dit qu'il peut y avoir tout le théâtre, certes, pourquoi Macbeth puis Les Bonnes? Alors Les Bonnes, oui, le travesti, enfin, mais là aussi c'est un peu, on pourrait en trouver des milliers d'autres, donc pourquoi c'est de là, et je n'ai pas arrêté de me poser la question, et surtout il y a un problème sur l'articulation de ça, c'est-à-dire que le fait de faire des poupées russes, d'avoir des textes qui répondent à d'autres textes. Il y a des gens, des metteurs en scène très prestigieux qui sont spécialistes de ça. Quelquefois c'est agaçant, quelquefois c'est réussi. Mais bon, Varlikovski, Castorf, pour parler des plus grands. Donc de mettre des textes, emboîter des textes les uns dans les autres, très bien. Là, c'est pas de l'emboîtement, c'est de la juxtaposition. Et surtout, il y a le théâtre de Copy, c'est un théâtre qui déménage. Et après avoir fait ce théâtre qui déménage, c'est plutôt bien, il fait un théâtre qui s'installe comme ça, et qui est presque totalement antinomique, mais cette antinomie, on n'a pas l'impression qu'elle est réfléchie non plus. Et donc, les références de Copy, qui sont le vaudeville, qui sont le cabaret, qui sont tout ça, on les retrouve pas du tout dans le reste. Et donc, il y a un projet dont on comprend, je l'ai tout simplement pas compris, en fait.
Thomas Corlin.
Moi aussi, j'ai essayé de me forcer à ne pas interpréter des liens entre les trois pièces finalement, parce que clairement j'ai un peu l'impression, on est vraiment dans trois univers très différents, parce que bon, on a vendu la mèche, ouais, ces trois pièces de quand même d'époques assez différentes, surtout dans le cas de Shakespeare. Et donc je me suis vraiment un petit peu concentré sur ce que ça me ça produisait sur moi en termes d'expérience de spectateur, sur mon attention. Donc bizarrement j'ai lâché prise. Donc tous les liens, on peut en faire plein parce que les textes sont tellement riches qu'on peut en faire des tonnes. Ça part à la fois sur la démultiplication des personnages, la violence aussi. On va pas se les refaire. Et donc je me suis rendu compte que en fait, avec la fatigation, la saturation, la fatigue, la saturation, et puis l'effort aussi de se projeter dans trois pièges qui ont quand même trois pièces qui ont des langages assez différents, qui sont quand même dans des registres assez opposés. Ça, finalement, ça a changé mon regard sur l'interprétation, le texte lui-même. Ça crée une écoute un peu plus urgente. Et puis aussi, je me suis dit, finalement, le théâtre peut parler d'une seule voix, comme ça, quel qu'il soit. C'est un petit peu ça que j'ai interprété dans ce sens-là. Quand on lit l'argumentaire de Clément Poiré, parce que quand même, la mise en scène, elle commence avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne donne effectivement que le texte, la feuille de salle, pour copie. Et c'est à la sortie qu'on nous donne une autre feuille de salle, en me disant, il y avait Macbeth et les bonnes dans le frigo. Et il n'a
aucun, on l'aurait pas remarqué.
Oui, aucun, on l'aurait pas remarqué, c'est sûr. Et à cet endroit-là, il nous dit c'est à cause de la. Je voulais parler de monstruosité. En fait, j'ai trouvé ça assez dommage. C'est-à-dire que je me suis dit, la monstruosité, bon, on peut la trouver là ou la trouver ailleurs. Je me suis dit que finalement, le théâtre, surtout les classiques comme ça, on pouvait les jouer un petit peu comme un artiste pop chanterait une reprise d'un morceau qu'il n'avait pas prévu de jouer. Et donc, on est là, on est effectivement dans un marathon parce que quand même la prouesse et le jeu qui est très nerveux. Je trouve le jeu même un peu trop. Ils y vont très fort. Mais tous les acteurs, personnellement, je les ai trouvés très bon, parce que le jeu a beaucoup de caractère, voire un peu trop, on aimerait bien qu'il lâche prise aussi de temps en temps. Et tout repose donc sur cette prouesse, sur ce challenge. Alors bien sûr, on a l'habitude d'avoir des pièces qui durent de plus en plus longtemps aujourd'hui, et puis de jouer sur la durée. Mais en fin de compte, alors est-ce que ça relève du caprice, du simple jeu, ou est-ce que juste Clément Poiré s'est dit pourquoi pas ? Pourquoi pas, effectivement, qu'est-ce qui l'empêche de mettre bout à bout trois pièces comme ça ? Ça crée quand même une expérience stimulante de spectateur sur laquelle j'ai encore un peu du mal à mettre un mot.
Je crois que même si nous avons vendu la mèche, tout le monde la vendra parce que les gens voient copie dans le frigo, 4h15, qu'est-ce que c'est l'histoire, et que si celles et ceux qui ont été voir le spectacle vont dire aux autres, vas-y, on n'y va pas, mais en tout cas, c'est de ça qu'il s'agit.
Il paraissait que copie pouvait jouer les pièces de 10 minutes jusqu'à 3 heures, apparemment, selon ses états d'âme, donc je pensais que ça joue un peu là-dessus.
Mais c'est pas le cas. Marie Sorbier.
Oui, c'est sûr que la question du sens, elle vient très vite. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'interroger quand on passe ce plateau et qu'on arrive sur Macbeth en sortant de copie. Il y a, moi, toute la première partie de sa pièce de Macbeth que je n'écoutais pas vraiment, j'étais en train de me demander.
Mais pourquoi?
Qu'est-ce que je fais là? Essayer de créer du lien. Au bout d'un moment, on finit par lâcher. En se disant, bon, finalement, pourquoi pas? Et puis, on s'attend à la troisième. Donc, du coup, on commence à jouer en disant, alors finalement, ça va être quoi, cette troisième pièce? On ne sait pas. Bon. Il y a tout ce jeu-là.
Là, vous attendez l'Oresti.
On a fait des paris avec mes voisins.
Vous aviez parié sur quoi?
Alors, moi, je pensais à Calderon. Je ne sais pas pourquoi. La vie est un songe. Parce que je m'étais dit, c'est sur l'onirisme. Mais bon. Bref, d'accord. Rien à voir. J'avais perdu. La problématique était de se dire, je me disais, ça va résonner. C'est-à-dire, est-ce que ces trois pièces, finalement, est-ce qu'en sortant de ces 4h15, même si je ne comprends pas intellectuellement un lien, est-ce que ça va se confronter? Est-ce que quelque chose va ressortir? Est-ce que ces pièces-là vont être éclairées d'un jour nouveau? Ce qui aurait été, pour moi, la réussite de ce pari. Je l'ai vu hier, donc c'est très récent, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire, je vois toujours pas. Alors, en effet, on peut s'amuser à faire des liens et on peut en faire 1000. C'est pas tellement l'intérêt. C'est, pour moi encore aujourd'hui, une juxtaposition de trois pièces où le lien ne m'apparaît pas très clair. Et pour revenir à ce que vous disiez, en effet, le petit papier qui est distribué à la sortie pour expliquer ce qu'on vient de voir, et les notes, la note d'intention en fait du metteur en scène qui fait 10 lignes, pourquoi lier ces trois pièces, qui justifie sur la monstruosité, puisqu'il dit « j'ai voulu travailler sur la monstruosité », je trouve ça un peu limite, parce que, alors pour le coup, je vois pas la monstruosité dans ces pièces-là, alors Macbeth peut-être, mais ni dans la première, ni dans les bonnes, je trouve que le terme est pour le coup pas celui que j'aurais mis en exergue et pas celui qu'on voit. Donc même son intention à lui me paraît pas très nette et pas très claire, en tout cas pas très éclairé par la mise en scène qu'il a voulu faire. Et un dernier point pour rebondir sur ce que vous disiez, moi je suis pas totalement convaincue par tous les acteurs. Je trouvais c'est un peu braillard par moment. Sur Macbeth, on était quand même dans un simili McCain par moment, le personnage de McCain, de Macbeth, pardon. Donc voilà, il y a quand même des choses qui m'ont un peu gênée sur les jeux d'acteurs. Mais finalement, c'est pas ça qui prédomine. On est toujours dans cette interrogation de mais pourquoi ?
Mais pourquoi ? Mais du coup, vous n'avez presque pas parlé des bonnes, parce que vous étiez épuisé.
Oui, il y a des fatigues et c'est du... oui, on a.
On dit ah ben on est parti pour les bonnes.
Ça y est, voilà, c'est un peu la raison et bon, ça passe. C'est un beau texte, mais
pas des mauvaises pièces.
Non. Il aurait pu choisir des plus mauvaises. Mais, non, mais encore une fois, il y a. Pourquoi pas? Enfin, c'est cette histoire de chercher des échos, mais je trouve moi tout simplement qu'il y a un manque de travail de dramaturgique, c'est-à-dire qu'il y a pas. Et s'il voulait travailler sur la monstruosité de Coppi et sur les figures de pouvoir, là, il y a chez Coppi même de quoi faire.
Oui, bien sûr.
Eva Perón, par exemple, c'est une pièce absolument passionnante là-dessus. Ouais, ouais. C'est et sur le évidemment les jeux de masques de rôle. Alors là, il y a tout ce qu'on veut, plus des pièces un peu plus longues, la tour de la défense. Il y a dans Coppi même une matière, donc de quoi faire des correspondances. Et puis si il s'agit de faire, après tout, pourquoi pas imaginer Lady Macbeth dans Coppi? Je veux dire, Coppi, ça l'aurait, il était tout à fait capable de faire Lady Macbeth, mais Lady Macbeth, pour lui, c'était 2 minutes. Il fait Lady Macbeth 2 minutes. Il se lave les mains, il fait l'hystérie, et puis voilà. Je veux dire, et donc, ça lui aurait plu de faire Lady Macbeth à Coppi, mais certainement pas pendant 2h30. C'est là où et s'il y avait des correspondances à la rechercher avec d'autres pièces et ailleurs, oui, je pense que la confrontation avec Feydeau, par exemple, ça peut être beaucoup plus amusant, hein, de passer du frigo avec les placards, les portes et à un salon bourgeois de Feydeau. Voilà, là il y aurait sûrement des choses beaucoup plus amusantes à trouver. Et c'est un peu dommage parce que encore une fois, le Coppi le montre plutôt bien. Il y a des acteurs, bon. Plutôt d'accord avec vous, hein, c'est pas très égal. C'est vrai que c'est un peu forcé, vociférant que des fois et tout. Mais il y a de quoi. On sent qu'il y a de quoi faire. Et puis il a du savoir-faire scénique. Il sait faire. Donc voilà. Un peu dommage, d'une certaine façon.
Dernier mot, Thomas Corlin.
Effectivement, je ne vais pas essayer d'interpréter le geste de Clément Poiret. Je trouve d'ailleurs très dommage qu'il essaye de se justifier d'une manière un petit peu hasardeuse. Et je relèverai quelque chose aussi, c'est que donc, effectivement, on peut trouver ça un petit peu braillard comme jeu. Ils y vont vraiment très fort. Je pense que ça n'aurait pas marché s'ils n'étaient pas allés aussi vite. Franchement, on dirait vraiment qu'ils courent un petit peu de temps en temps. Par ailleurs, il y a un détail, c'est que contrairement à ce que d'autres personnes ont pu faire, genre les Varikovsky ou d'autres, ils n'ont pas du tout essayé d'interpréter, enfin, de me lier toutes les pièces ensemble, chacune est dans son jeu, je veux dire copiée dans son jeu.
Espace différent.
Exactement,
aussi.
Tout à fait. Donc j'ai un peu l'impression que c'est une machine théâtrale qui s'exprime comme ça, à travers toutes ses facettes. J'avais un peu l'impression d'être à une fête foraine parfois, avec le côté on monte sur scène et ce genre de choses. Donc on va laisser ça comme une sorte de caprice et pourquoi pas aussi jouer un petit peu avec la soirée au théâtre, quoi, après tout.
Longue soirée. Dans le frigo. Et autre pièce. C'est une mise en scène de Clément Poiret. C'est jusqu'au 20 octobre. Au théâtre de la Tempête, ce qui laisse évidemment à nos auditrices et auditeurs tout loisir de vivre, elles et eux, cette expérience. C'est l'heure du coup de cœur de Marie Sorbier, c'est l'heure de vérifier votre niveau d'anglais.
Ah, vous voulez que je dise le titre ?
Ah bah oui, le titre.
Alors le titre est magnifique. Put your heart under your feet and walk. Alors, mets ton cœur sous ton pied et marche. C'est une phrase que dit la nourrice de Stephen Cohen quand son compagnon décède. Le spectacle est un hommage à son compagnon disparu. Et lui, effondré, se confie à sa nourrice qu'il a élevée et elle lui dit cette phrase qui va l'aider à se remettre de ce deuil, et il se la fait tatouer sous son pied. Donc le spectacle commence par une vidéo, un film de ce tatouage où on voit son pied, sa plante de pied en gros plan, et le tatouage de cette phrase, voilà, qui est le titre du spectacle.
Ce spectacle, on peut le voir où d'ailleurs ? J'ai pas les informations, vous les avez toutes.
On peut le voir au Centre Pompidou.
Je vous taquine.
Mais je peux le faire.
Taquine, Aïssa Toundoï m'a préparé une magnifique fiche, voyez-vous, avec les dates du 19 au 21 septembre au Centre Pompidou, les 28 et 29 novembre à la MC 93, dans le cadre du Festival d'automne à Paris, 22 et 23 janvier, à Bonlieu, scène nationale d'Annecy. Qu'est-ce que vont voir celles et ceux qui vont aller à ce spectacle ?
Je suis très contente de parler de ce spectacle parce que je pense que c'est un des spectacles spectacle qui m'accompagnera toute ma vie. Alors il y en a peu, mais je suis sûre que celui-là, ce sera le cas. Alors c'est pas un spectacle en fait, c'est pas un spectacle, c'est pas une performance, il faudrait sortir de tout ce vocabulaire-là. Alors c'est difficile parce qu'on va y revenir pour y expliquer, mais c'est un hommage, c'est vraiment une cérémonie, alors au sens premier du terme, c'est un hommage funèbre donc à son compagnon, au compagnon de Stephen Cohen qui est un artiste sud-africain, que l'on connaît pour ses performances, pour le coup qu'il avait fait, dans le cas du Festival d'automne aussi, plusieurs fois, en extérieur souvent, des performances qui avaient été suivies d'incarcération, parce qu'il est toujours dans la provocation. Voilà, donc c'est un personnage haut en couleur, j'allais dire, qui se produit sur toutes les scènes du monde. Et là, il revient avec quelque chose qui dit être son dernier spectacle, alors je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, d'extrêmement intime et d'insoutenable par beaucoup d'aspects. Alors c'est compliqué de le préconisé parce que il faut vraiment être en état de le recevoir. C'est d'une violence inouïe. En même temps, il se passe rien de très concret sur scène. Mais il met en scène une cérémonie. C'est lui qui entre sur le plateau. Il est habillé avec sa robe en tutu, complètement maquillé en blanc. Et puis son visage est comme un énorme papillon, comme ça, avec des cils en ailes. Et des chaussures plateforme immense de plusieurs dizaines de centimètres de haut en forme de cercueil. Et il arrive comme ça sur cette scène qui est en fait un cimetière d'objets. Donc nous avons des ballerines, son compagnon était danseur, plein d'objets qui leur ont appartenu, tout est à eux. Et il essaie de se mouvoir comme ça au milieu de ce cimetière avec du Leonard Cohen en fond. Voilà, donc c'est assez comme ça, un peu mystique. Et de cette marche funèbre est entrecoupée de films qu'il a réalisés qui sont donc d'une violence assez inouïe, dont un, pour en citer un, dans un abattoir. Son compagnon est mort d'une hémorragie. Donc il se rend dans un abattoir avec cette robe blanche en tutu, tout ça maquillé un peu de façon illégale. Il arrive le petit matin, il soudoie les gardiens pour qu'ils puissent rentrer. Enfin, c'est toute une histoire. Et il se plonge comme ça, habillé comme il est, dans un bac où est réceptionné le sang des cadavres de bœufs qui pendent encore. Donc il est, donc on voit ces bœufs pendant, lui s'engluant de sang dans son bac, et ça dure très longtemps. Alors le spectacle est très court, hein, je dis ça, mais le spectacle dure 55 minutes peut-être. Mais cette scène qui est assez assez dure, il prend vraiment le temps de rentrer, de se recouvrir de sang. Tout est très étiré. Puis après, on revient sur scène, il marche jusqu'à cette cérémonie finale où je ne dirai pas ce qui se passe, parce qu'il y a un acte fondamental qui est un acte que je n'avais jamais vu de ma vie, et je crois qu'il n'est nulle part à part sur cette scène à ce moment-là. C'est pas pour pas le dire, c'est plus que je trouve que les mots vont l'amoindrir, alors qu'il faut le vivre en direct pour percevoir la portée de ce qu'il est en train de faire, et qui explique qu'il peut pas y avoir beaucoup de dates de tournée parce qu'il va être limité par des raisons pratiques. Et donc il fait cet acte sacrificiel à la fin. Et tout le monde est en apnée pendant ces 55 minutes. C'est-à-dire, c'est soit vous sortez de la salle parce que ça vous est insupportable, soit vous recevez ça comme un requiem. C'est vraiment une prière incroyable qu'il est en train de donner. Et donc c'est un spectacle à vivre une fois dans sa vie.
Put Your Heart Under Your Feet and Walk de Stephen Cohen, donc du 19 au 21 septembre au Centre Pompidou à Paris, et puis 28-29 novembre à la MC 93 Bobigny, dans le cadre du Festival d'automne à Paris, et puis de nouveau 22-23 janvier à Bonlieu, scène nationale d'Annecy.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier spectacle à notre affiche ce soir se joue en ce moment au théâtre de Belleville. Il s'intitule Striptease 419, parce que l'émission documentaire belge comptait 418 numéros, enfin avant de reprendre, tout récemment. Quatre comédiens membres du collectif La Capsule ont sélectionné et retranscrit 10 épisodes de Striptease pour les rejouer sur scène. On se souvient peut-être du spectacle Fumier présenté au Rond-Point il y a 3 ans, qui lui aussi rejouait un numéro de l'émission Striptease. Et il faut bien dire que malgré l'addition de talent dans Fumier, le spectacle n'arrivait vraiment pas à prendre. Qu'en est-il cette fois? Roulement de tambour. Et vos premiers sentiments, Thomas Corlin?
Création énergique, mais gare aboutie, et très confuse sur le traitement de la misère sociale dans les médias.
Marie Sorbier.
C'est un spectacle qui m'a mis très mal à l'aise.
René Solis.
C'est un spectacle qui a des intentions et je ne suis pas sûr qu'il les mène à leur terme.
Tu vois, moi je crois que t'as quand même une manière d'être, de parler aux autres, qui est plus supportable du moins. Tu comprends?
Mais ils sont pas venus se plaindre à moi.
Non.
Je les respecte, hein. Je leur dis pas, ça va connard, ça va ta mère. Et je suis poli avec eux.
Quand t'appelles Jean-Grain du bide, c'est quoi? C'est du respect, ça?
Bah, déjà c'est entre nous, et moi je suis une petite pierre changeante, hein. On va pas s'embrouiller pour ça.
Bon, de toute façon, j'aimerais te rappeler l'essentiel. Quand tu es sur le chantier, tu travailles pour toucher un salaire, ok? Ce salaire, faudrait quand même pouvoir le justifier. Faut pas croire là, que tu vas toucher forcément ton contrat CES et que ça va courir comme ça jusqu'au mois de décembre et que t'auras forcément tes 500 balles toutes les fins de mois.
Et ben faites. Faites ce que vous voulez ou arrêtez, je m'en fous, moi.
Sarah, que ce soit CAE, que ce soit Espoir Jeune comme lui ou autre, nous, on est là. On est là pour vous faire avancer, pour te faire avancer dans un projet.
Voilà pour cet extrait de Striptease 419. René, est-ce qu'on peut dire des parties pris de ce spectacle? Alors, il y a cette idée de départ.
Oui, donc le codicille, enfin le 419e émission. Donc ils sont partis, ils ont travaillé, ils en ont regardé beaucoup, j'imagine. Ils en ont retenu alors une dizaine, en fait principalement quatre. Et donc c'est une sorte de montage, hein, avec quand même un personnage central qui est interprété par Chirine Boussa, qui est une jeune fille en souffrance et en révolte, en train de se faire virer de l'école. Puis avec des gros problèmes dans le foyer où elle est, et donc on est dans le réalisme trash. Donc pas mal d'émissions de striptease sont sur ce terrain-là, d'une misère sociale. Et visiblement, ce qui intéresse Paul Lourdon dans cette histoire, c'est la question du voyeurisme. Et donc c'est le voyeurisme des spectateurs par rapport à l'émission et la transposition de ce voyeurisme sur une scène de théâtre par rapport à des acteurs, et c'est aussi le voyeurisme des réalisateurs de l'émission. Et cette question-là, il la pose aussi dans son spectacle, puisque il y a les trois acteurs sur scène qui interprètent les jeunes gens et l'éducateur, voilà, cette histoire qui se déroule avec les scènes comme ça extrêmement réalistes, et il y a dans la salle un quatrième qui est le personnage du réalisateur. Et donc on est, nous spectateurs, confrontés à la question de qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde ce qui se passe sur scène, ce qu'on a tendance à regarder principalement, mais est-ce qu'on regarde aussi ce type qui est dans la salle et qui de temps en temps intervient et qui a un rapport très ambigu à ce qui se passe, puisqu'il est celui qui le suscite et en même temps celui qui s'en nourrit. Et donc voilà. Et donc, disons qu'il veut travailler là-dessus. Et après tout, c'est évidemment une question intéressante. Et cette présence du metteur en scène, de l'émission dans la salle, donne effectivement une tension à laquelle on aurait envie de s'intéresser.
Thomas Corlin, pour ce spectacle, Striptease 419.
Il me semble assez difficile de faire un commentaire plus ou moins définitif parce que ça me semble être un travail très tâtonnant et le dispositif que vient de décrire René Solis, effectivement, ne permet pas de lire vraiment les intentions de cette troupe. En l'occurrence, on a d'un côté un jeu très jeune, très potage, donc vraiment comme on l'entend à l'instant, c'est presque un peu amateur, on dirait qu'ils en jouent, on dirait que c'est fait un peu exprès de temps en temps, c'est même un peu folklore, ça fait penser presque aux Des Chiens, et donc ça pousse à prendre tout ce qu'on voit, entre guillemets, un peu au quatrième degré, et de l'autre côté, donc on a ce personnage de réalisateur qui vient d'être décrit, et ça renforce donc cette mise à distance, puisque finalement il fait tout plein d'interventions qui sont assez malvenues, qui sont même un peu ambiguës. Donc il y a cette distance ironique, des commentaires sur le voyeurisme dans les médias, sur le pathos social. Et alors effectivement on aimerait que ça produise quelque chose, par exemple mettre en cause le regard du spectateur lui-même sur son biais éventuel, selon sa provenance sociale, par rapport à ce qui est exposé sur scène. Mais malheureusement, c'est jamais vraiment vraiment traité, donc on peut rien en faire. Et par ailleurs aussi, ça débouche, alors bon, je vais pas vraiment révéler la fin, mais ça débouche sur un discours assez, bizarrement manichéen, ou en tout cas plus manichéen sur les médias que ce que leur note d'intention laisse entendre. Donc il y a une sorte de passage à tabac, voilà, juste pour le dire. C'est un peu grand guignol, c'est vite emballé, et ça boucle le tout sur une sorte de touche un peu moraliste, de type les médias salient cannibalise tout, faut les sacrifier, finalement, tout est, c'est eux le problème. Et ça, encore une fois, ça n'a pas l'air d'être le propos de la pièce.
Oui, mais il faut quand même rappeler que, pour ce qui concerne Striptease, il n'y a aucune intervention dans le sujet du réalisateur. Alors, il y a plusieurs sources d'inspiration, notamment Mes plus belges années, ce livre de Mathieu Hortley, parce que je pense que cette partie-là, elle vient beaucoup de là, parce que Striptease, c'est un regard supposément neutre, enfin en tout cas sans voix off, sans bande-titre, sans explication. Marie Sorbier sur ce spectacle.
Oui, alors moi j'ai pas eu la chance d'avoir de la distance, mais j'aurais bien aimé, parce que du coup j'ai beaucoup souffert, j'ai trouvé ça très agressif. Alors dans le jeu, qui est particulièrement agressif, ça parlait très très fort, ça criait même par moments. La salle du Théâtre de Belleville n'est pas très grande, donc ils projettent quand même beaucoup. Alors du coup, on recevait cette haine et cette hargne qu'ils témoignent de façon vraiment très agressive. Trop agressif pour même entendre ce qu'ils avaient à dire, donc j'ai très vite décroché sur ce qu'ils disaient, et ne m'accrochant que sur cette haine un peu jetée comme ça en pâture. Mais donc artistiquement, j'ai pas grand-chose à dire à part que pour moi, je n'ai rien reçu et rien ressenti. Ma problématique, elle est plutôt sur l'intérêt de monter cette émission de télé culte pour beaucoup de gens et, au théâtre. Alors ça me pose deux problèmes sur ces questions de voyeurisme, notamment qu'ils veulent aborder, mais qui pour le coup, je trouve qu'il n'aborde pas du tout. Autant, on est protégé par un écran. On est protégé quand on regarde une émission comme ça à la télé. Et en effet, il y avait ce côté sans commentaire qui permettait d'avoir un accès plus direct aux vrais gens. Je mets 18 guillemets à cette expression, mais c'était quand même un peu ça l'idée. Là, on se retrouve devant un mix d'histoires, donc vraies au départ, portées par des acteurs et délivrées comme ça en pâture au public. J'ai trouvé ça presque indécent.
René Solis.
Alors moi pas, je partage pas ça. J'ai plutôt essayé d'écouter, là aussi de demander ce qui, où ça allait. Il y a, comment dire, je trouve que c'est effectivement, on peut dire que c'est pas abouti, mais qu'il y a des intentions et des intuitions même. Il y en a une que je trouve qui moi m'a plu d'un point de vue scénique, c'est la brouette et le gravier, parce que tout à coup ça introduit une sorte de justement.
Il faut expliquer là.
Ces jeunes gens en souffrance, en foyer, des galères et ils sont aussi en train de travailler sur un chantier. Alors il y en a un des deux qui travaille, elle travaille pas beaucoup. Et donc il y a, pour matérialiser ce chantier, il y a deux plots de chantier, et puis il y a une brouette et un tas de gravier et une pelle. Et il y a dans une partie des gestes, c'est de pelleter ce gravier, de le mettre dans la brouette, et donc ça dégage un nuage de poussière. Et tout d'un coup il y avait là justement du vrai réel, si je puis dire, sur scène, qui produisait un effet un peu étrange c'était plutôt une belle image, d'introduire, de mettre le travail, cette histoire du chantier du travail et de la donner à voir, à sentir avec la fumée, la poussière, l'effort, l'appel, tout ça. Je trouvais qu'il y avait comme une intuition d'image.
Ça a convaincu Marie.
Mais ça reste là, c'est pas ça ne se.
Je veux bien croire qu'il y avait une intuition, mais elle m'est pas parvenue.
Thomas Corlin.
Tout à fait d'accord. Moi j'aimais beaucoup cette image de la brouette et de la poussière que ça crée. C'est peut-être.
Vous êtes bienveillant, contrairement à Marie Sorbier.
Mais il y a juste deux, trois petites choses que je trouve encore assez incohérentes par rapport à leur propos. C'est excitant sur le papier de parler d'aborder Striptease sur scène. Apparemment, ils l'avaient déjà fait. Malheureusement, entre la charge critique, le jeu et puis les signes aussi de vouloir vraiment mettre ça dans les années 90, on entend NTM à un moment, alors que leur jeu fait plus référence à la culture télé-réalité contemporaine. Et pour finir juste sur Striptease, qui m'a assez déçu, j'étais assez excité de voir des jeunes gens, bon, je ne sais pas s'ils sont plus aussi jeunes que ça, mais aborder ça, c'est que finalement, je ne sais pas ce qu'ils avaient abordé comme épisode avant, mais là, les quatre épisodes qu'ils sélectionnent sont tous des épisodes qui parlent de misère sociale. Les Striptease ont abordé milliards de thèmes différents. Ils avaient même abordé le milieu littéraire avec sur les éditions Héloïse d'Ormesson, la pub et ce genre de choses. Donc je trouve que l'angle un petit peu déballage de misère sociale me semble pas suffisante, et même d'ailleurs aussi n'explique pas pourquoi, quelle est la patte singulière qui les a fait s'intéresser à Striptease et le présenter sur scène. Donc j'aimerais comprendre aussi ce travail.
On vous renverra la note d'intention du prochain spectacle mis en scène par Paul Lourdeau. Donc en l'occurrence, c'est Striptease 419 dont on parlait. C'est jusqu'au 30 septembre au Théâtre de Belleville. Thank you.
Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute. David Dana nous a rejoint pour nous rappeler dans un premier temps la question du jeu de vendredi, nous donner dans un second temps sa réponse.
En quelle année le spectacle Secret Temps 2 a-t-il été créé? Et la réponse est 2012.
Et un troisième temps maintenant, c'est le sujet, le cadeau qu'on va faire gagner ce soir, des catalogues de l'exposition La science à la poursuite du crime. C'est une exposition qu'on peut découvrir jusqu'au 18 janvier aux Archives nationales, sur le site de Pierre Fuite, sur Seine. Quelle est la question, David?
Qui est le fondateur du premier laboratoire de police d'identification criminelle?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et David Dana. Prise de son ce soir Adèle Caglar, réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter ou podcaster nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour une dispute musique. Je serai en compagnie de Lucille Como, Emmanuel Dupuis, Charles Ardenne. Nous parlerons de la Traviata de Verdi, mise en scène par Simon Stone à l'Opéra Garnier, d'Opéra Monde, exposition au Centre Pompidou-Metz. Il y aura un coup de cœur d'Emmanuel Dupuis pour un DVD de Vanessa de Barber, mise en scène Kiss Warner, et puis un journal de la dispute de Lucille Como. Est-il possible de monter Einstein on the Beach autrement?